L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricoux pour audiocité.net. Seconde partie, chapitre 7. Les colons de l'île Lincoln avaient donc reconquis leur domicile sans avoir été obligés de suivre l'ancien déversoir, ce qui leur épargna des travaux de maçonnerie. Il était heureux, en vérité, qu'au moment où ils se disposaient à le faire, la bande de singes eût été prise d'une terreur, non moins subite qu'inexplicable, qu'ils avaient chassée de Granite House. Ces animaux avaient-ils donc pressenti qu'un assaut sérieux allait leur être donné par une autre voie? C'était à peu près la seule façon d'interpréter leur mouvement de retraite. Pendant les dernières heures de cette journée, les cadavres des singes furent transportés dans le bois où on les enterra. Puis les colons s'employèrent à réparer le désordre causé par les intrus, désordre et non dégâts, car s'ils avaient bouleversé le mobilier des chambres, du moins n'avaient-ils rien brisé. Nab ralluma ses fourneaux, et les réserves de l'office fournirent un repas substantiel, auquel tous firent largement honneur. Jup ne fut point oublié, et il mangea avec appétit des amandes de pignon et des racines de rhizome, dont il se vit abondamment approvisionné. Pencroff avait délié ses bras, mais il jugea convenable de lui laisser les entraves aux jambes jusqu'au moment où il pourrait compter sur sa résignation. Puis, avant de se coucher, Cyrus Smith et ses compagnons, assis autour de la table, discutèrent quelques projets dont l'exécution était urgente. Les plus importants et les plus pressés étaient l'établissement d'un pont sur la Mercy afin de mettre la partie sud de l'île en communication avec Granite House, puis la fondation d'un corral destiné au logement des mouflons ou autres animaux à laine qu'il convenait de capturer. On le voit, ces deux projets tendaient à résoudre la question des vêtements qui était alors la plus sérieuse. En effet, le pont rendrait facile le transport de l'enveloppe du ballon qui donnerait le linge, et le corral devait fournir la récolte de laine qui donnerait les vêtements d'hiver. Quant à ce corral, l'intention de Cyrus Smith était de l'établir aux sources mêmes du Creek Rouge, là où les ruminants trouveraient des pâturages qui leur procureraient une nourriture fraîche et abondante. Déjà la route entre le plateau de Grande-Vue et les sources était en partie frayée, et avec un chariot mieux conditionné que le premier, les charrois seraient plus faciles, surtout si l'on parvenait à capturer quelque animal de trait. Mais s'il n'y avait aucun inconvénient à ce que le corral fût éloigné de Granite House, il n'en eût pas été de même de la basse cour, sur laquelle Nab appela l'attention des colons. Il fallait, en effet, que les volatiles fussent à la portée du chef de cuisine, et aucun emplacement ne parut plus favorable à l'établissement de ladite basse-cour que cette portion des rives du lac qui confinait à l'ancien déversoir. Les oiseaux aquatiques y sauraient prospérer, aussi bien que les autres, et le couple de tinamous pris dans la dernière excursion devait servir à un premier essai de domestication. Le lendemain, 3 novembre, les nouveaux travaux furent commencés par la construction du pont, et tous les bras furent requis pour cette importante besogne. Scie, hache, ciseaux, marteaux furent chargés sur les épaules des colons, qui, transformés en charpentiers, descendirent sur la grève. Là, Pencroff fit une réflexion. Et si, pendant notre absence, il allait prendre fantaisie à Maître Jup de retirer cette échelle qui nous a si galamment renvoyée hier, assujettissons-la par son extrémité inférieure, répondit Cyrus Smith. Ce qui fut fait au moyen de deux pieux, solidement enfoncés dans le sable. Puis, les colons remontant la rive gauche de la Mercy arrivèrent bientôt au coude formé par la rivière. Là, ils s'arrêtèrent afin d'examiner si le pont ne devrait pas être jeté en cet endroit. L'endroit parut convenable. En effet, de ce point, au port Ballon, découvert la veille sur la côte méridionale, il n'y avait qu'une distance de 3 milles et demi, et, du pont au port, il serait aisé de frayer une route carrossable qui rendrait les communications faciles entre Granite House et le sud de l'île. Cyrus Smith fit alors part à ses compagnons d'un projet à la fois très simple à exécuter et très avantageux qu'il méditait depuis quelque temps. C'était d'isoler complètement le plateau de Grande Vue afin de le mettre à l'abri de toute attaque de quadrupèdes ou de quadrumanes. De cette façon, Granite House, les cheminées, la basse-cour et toute la partie supérieure du plateau, destinée aux ensemencements, serait protégée contre les déprédations des animaux. Rien n'était plus facile à exécuter que ce projet, et voici comment l'ingénieur comptait opérer. Le plateau se trouvait déjà défendu sur 3 côtés par des cours d'eau, soit artificiels, soit naturels. Au nord-ouest, par la rive du lac Grant, depuis l'angle appuyé à l'orifice de l'ancien déversoir jusqu'à la coupée faite à la rive est du lac pour l'échappement des eaux. Au nord, depuis cette coupée jusqu'à la mer, par le nouveau cours d'eau qui s'était creusé un lit sur le plateau et sur la grève, en amont et en aval de la chute, et il suffisait en effet de creuser le lit de ce creek pour en rendre le passage impraticable aux animaux. Sur toute la lisière de l'est, par la mer elle-même, depuis l'embouchure du Susdee Creek jusqu'à l'embouchure de la Mercy. Au sud, enfin, depuis cette embouchure jusqu'au coude de la Mercy, où devait être établi le pont. Restait donc la partie ouest du plateau, comprise entre le coude de la rivière et l'angle sud du lac, sur une distance inférieure à 1 mille, qui était ouverte à tout venant. Mais rien n'était plus facile que de creuser un fossé, large et profond, qui serait rempli par les eaux du lac, et dont le trop-plein irait se jeter par une seconde chute dans le lit de la Mercy. Le niveau du lac s'abaisserait un peu sans doute, par suite de ce nouvel épanchement de ses eaux, mais Cyrus Smith avait reconnu que le débit du Creek Rouge était assez considérable pour permettre l'exécution de son projet. Ainsi donc, ajouta l'ingénieur, le plateau de Grande Vue sera une île véritable, étant entouré d'eau de toutes parts, et il ne communiquera avec le reste de notre domaine que par le pont que nous allons jeter sur la Mercy, les 2 ponceaux déjà établis en amont et en aval de la chute, et enfin 2 autres ponceaux à construire, l'un sur le fossé que je vous propose de creuser, et l'autre sur la rive gauche de la Mercy. Or, si ces ponts et ponceaux peuvent être levés à volonté, le plateau de Grande Vue sera à l'abri de toute surprise. Cyrus Smith, afin de se faire mieux comprendre de ses compagnons, avait dessiné une carte du plateau, et son projet fut immédiatement saisi dans tout son ensemble. Aussi, un avis unanime l'approuva-t-il, et Pencroff, brandissant sa hache de charpentier, de s'écrier « Au pont d'abord !» C'était le travail le plus urgent. Des arbres furent choisis, abattus, ébranchés, débités en poutrelles, en madriers et en planches. Ce pont fixe dans la partie qui s'appuyait à la rive droite de la Mercy devait être mobile dans la partie qui se relierait à la rive gauche, de manière à pouvoir se relever au moyen de contrepoids, comme certains ponts d'écluses. On le comprend, ce fut un travail considérable, et s'il fut habilement conduit, du moins, demanda-t-il un certain temps, car la Mercy était large de 80 pieds environ. Il fallut donc enfoncer des pieux dans le lit de la rivière afin de soutenir le tablier fixe du pont et établir une sonnette pour agir sur les têtes des pieux qui devaient former ainsi deux arches et permettre au pont de supporter de lourds fardeaux. Très heureusement ne manquaient ni les outils pour travailler le bois, ni les ferrures pour le consolider, ni l'ingéniosité d'un homme qui s'entendait merveilleusement à ses travaux, ni enfin le zèle de ses compagnons qui, depuis 7 mois, avaient nécessairement acquis une grande habileté de main. Et, il faut le dire, Gédéon Spilett n'était pas le plus maladroit, et luttait d'adresse avec le marin lui-même, qui n'aurait jamais tant attendu d'un simple journaliste. La construction du pont de la Mercy dura 3 semaines, qui furent très sérieusement occupées. On déjeunait sur le lieu même des travaux, et, le temps étant magnifique alors, on ne rentrait que pour souper à Granite House. Pendant cette période, on put constater que Maître Jup s'acclimatait aisément et se familiarisait avec ses nouveaux maîtres, qu'il regardait toujours d'un œil extrêmement curieux. Cependant, par mesure de précaution, Pencroff ne lui laissait pas encore liberté complète de ses mouvements, voulant attendre, avec raison, que les limites du plateau eussent été rendues infranchissables par suite des travaux projetés. Top et Jup étaient au mieux et jouaient volontiers ensemble, mais Jup faisait tout gravement. Le 20 novembre, le pont fut terminé. Sa partie mobile, équilibrée par des contrepoids, basculait aisément, et il ne fallait qu'un léger effort pour la soulever. Entre sa charnière et la dernière traverse sur laquelle elle venait s'appuyer, quand on la refermait, il existait un intervalle de 20 pieds qui était suffisamment large pour que les animaux ne pussent le franchir. Il fut alors question d'aller chercher l'enveloppe de l'aérostat que les colons avaient hâte de mettre en complète sûreté. Mais pour la transporter, il y avait nécessité de conduire un chariot jusqu'au port ballon, et par conséquent, nécessité de frayer une route à travers les épais massifs du Far West. Cela exigeait un certain temps. Aussi, Nab et Pencroff poussèrent-ils d'abord une reconnaissance jusqu'au port, et comme ils constatèrent que le stock de toile ne souffrait aucunement dans la grotte où il avait été emmagasiné, il fut décidé que les travaux relatifs au plateau de grande vue seraient poursuivis sans discontinuer. Cela, fit observer Pencroff, nous permettra d'établir notre basse cour dans des conditions meilleures, puisque nous n'aurons à craindre ni la visite des renards, ni l'agression d'autres bêtes nuisibles. Sans compter, ajouta Nab, que nous pourrons défricher le plateau, y transplanter des plantes sauvages. Et préparer notre second champ de blé, s'écria le marin d'un air triomphant. C'est qu'en effet, le premier champ de blé, ensemencé uniquement d'un seul grain, avait admirablement prospéré grâce aux soins de Pencroff. Il avait produit les 10 épis annoncés par l'ingénieur, et chaque épi portant 80 grains, la colonie se trouvait à la tête de 800 grains en 6 mois, ce qui promettait une double récolte chaque année. Ces 800 grains, moins une 50aine qui furent réservés par prudence, devaient donc être semés dans un nouveau champ, et avec non moins de soin que le grain unique. Le champ fut préparé, puis entouré d'une forte palissade, haute et aiguë, que les quadrupèdes eussent très difficilement franchie. Quant aux oiseaux, des tourniquets criards et des mannequins effrayants, dus à l'imagination fantasque de Pencroff, suffirent à les écarter. Les 750 grains furent alors déposés dans de petits sillons bien réguliers, et la nature dut faire le reste. Le 21 novembre, Cyrus Smith commença à dessiner le fossé qui devait fermer le plateau à l'ouest depuis l'angle sud du lac Grant jusqu'au coude de la Mercy. Il y avait là 2 à 3 pieds de terre végétale et, au-dessous, le granit. Il fallut donc fabriquer à nouveau de la nitroglycérine, et la nitroglycérine fit son effet accoutumé. En moins de 15 jours, un fossé large de 12 pieds, profond de 6, fut creusé dans le dur sol du plateau. Une nouvelle saignée fut, par le même moyen, pratiquée à la lisière rocheuse du lac, et les eaux se précipitèrent dans ce nouveau lit, en formant un petit cours d'eau auquel on donna le nom de Creek Glycérine, et qui devint un affluent de la Mercy. Ainsi que l'avait annoncé l'ingénieur, le niveau du lac baissa, mais d'une façon presque insensible. Enfin, pour compléter la clôture, le lit du ruisseau de la Grève fut considérablement élargi, et on maintint les sables au moyen d'une double palissade. Après la première quinzaine de décembre, ces travaux furent définitivement achevés, et le plateau de grande vue, c'est-à-dire une sorte de pentagone irrégulier, ayant un périmètre de 4 000 environ, entouré d'une ceinture liquide, fut absolument à l'abri de toute agression. Pendant ce mois de décembre, la chaleur fut très forte. Cependant, les colons ne voulurent point suspendre l'exécution de leur projet, et comme il devenait urgent d'organiser la basse-cour, on procéda à son organisation. Inutile de dire que, depuis la fermeture complète du plateau, Maître Jup avait été mis en liberté. Il ne quittait plus ses maîtres et ne manifestait aucune envie de s'échapper. C'était un animal doux, très vigoureux pourtant, et d'une agilité surprenante. Ah, quand il s'agissait d'escalader l'échelle de Granite House, nul n'eût pu rivaliser avec lui. On l'employait déjà à quelques travaux. Il traînait des charges de bois et charriait les pierres qui avaient été extraites du lit du Creek Glycérine. « Ce n'est pas encore un maçon, mais c'est déjà un singe, » disait plaisamment Harbert, en faisant allusion à ce surnom de singe que les maçons donnent à leurs apprentis. Et si jamais nom fut justifié, c'était bien celui-là. La basse-cour occupa une aire de 200 yards carrés qui fut choisie sur la rive sud-est du lac. On l'entoura d'une palissade et on construisit différents abris pour les animaux qui devaient la peupler. C'étaient des cahutes de branchages divisées en compartiments qui n'attendirent bientôt plus que leurs hôtes. Les premiers furent le couple de Tinamou qui ne tardèrent pas à donner de nombreux petits. Ils eurent pour compagnons une 12 douzaine de canards habitués des bords du lac. Quelques-uns appartenaient à cette espèce chinoise dont les ailes s'ouvrent en éventail et qui, par l'éclat et la vivacité de leur plumage, rivalisent avec les faisans dorés. Quelques jours après, Harbert s'empara d'un couple de gallinacés à queue arrondie et faite de longues pennes, de magnifiques alectors qui ne tardèrent pas à s'apprivoiser. Quant aux pélicans, aux martins-pêcheurs, aux poules d'eau, ils vinrent d'eux-mêmes au rivage de la basse-cour, et tout ce petit monde, après quelques disputes, roucoulant, piaillant, gloussant, finit par s'entendre et s'accrut dans une proportion rassurante pour l'alimentation future de la colonie. Cyrus Smith, voulant aussi compléter son œuvre, établit un pigeonnier dans un angle de la basse-cour. On y logea une 12aine de ces pigeons qui fréquentaient les hauts rocs du plateau. Ces oiseaux s'habituèrent aisément à rentrer chaque soir à leur nouvelle demeure et montrèrent plus de propension à se domestiquer que les ramiers, leurs congénères, qui d'ailleurs ne se reproduisent qu'à l'état sauvage. Enfin, le moment était venu d'utiliser, pour la confection du linge, l'enveloppe de l'aérostat, car, quant à la garder sous cette forme et à se risquer dans un ballon à air chaud pour quitter l'île, au-dessus d'une mer, pour ainsi dire, sans limite, ce n'eût été admissible que pour des gens qui auraient manqué de tout, et Cyrus Smith, esprit pratique, n'y pouvait songer. Il s'agissait donc de rapporter l'enveloppe à Granite House et les colons s'occupèrent de rendre leur lourd chariot plus maniable et plus léger. Mais si le véhicule ne manquait pas, le moteur était encore à trouver. N'existait-il donc pas dans l'île quelques ruminants d'espèces indigènes qui pût remplacer cheval, âne, bœuf ou vache? C'était la question. En vérité, disait Pencroff, une bête de trait nous serait fort utile. En attendant que M. Cyrus voulût bien construire un chariot à vapeur, ou même une locomotive, car certainement un jour nous aurons un chemin de fer, de Granite House au port Ballon, avec embranchement sur le mont Franklin. Et l'honnête marin, en parlant ainsi, croyait ce qu'il disait. Oh, imagination quand la foi s'en mêle! Mais, pour ne rien exagérer, un simple quadrupède attelable eût bien fait l'affaire de Pencroff, et comme la Providence avait un faible pour lui, elle ne le fit pas languir. Un jour, le 23 décembre, on entendit à la fois Nab crier et Top aboyer à qui mieux mieux. Les colons, occupés aux cheminées, accoururent aussitôt, craignant quelque fâcheux incident. Que virent-ils ? De beaux animaux de grande taille qui s'étaient imprudemment aventurés sur le plateau, dont les ponceaux n'avaient pas été fermés. On eût dit deux chevaux, ou tout au moins deux ânes, mâles et femelles, forme fine, pelage Isabelle, jambes et queues blanches, zébrées de raies noires sur la tête, le cou et le tronc. Ils s'avançaient tranquillement, sans marquer aucune inquiétude, et il regardait d'un œil vif ces hommes, dans lesquels il ne pouvait encore reconnaître des maîtres. « Ce sont des onagas, » s'écria Harbert, « des quadrupèdes qui tiennent le milieu entre le zèbre et le couaga. »«
Pourquoi pas des ânes ?» demanda Nab.
« Parce qu'ils n'ont point les oreilles longues, et que leurs formes sont plus gracieuses. »«
Ânes ou chevaux, » riposta Pencroff. Ce sont des moteurs, comme dirait M. Smith, et comme tels, bons à capturer.
Le marin, sans effrayer les deux animaux, se glissant entre les herbes jusqu'au ponceau du creek Glycérine, le fit basculer, et les onagas furent prisonniers. Maintenant, s'emparerait-on d'eux par la violence et les soumettrait-on à une domestication forcée? Non. Il fut décidé que pendant quelques jours, on les laisserait aller et venir librement sur le plateau, où l'herbe était abondante, et immédiatement l'ingénieur fit construire près de la basse-cour une écurie, dans laquelle les onagas devaient trouver, avec une bonne litière, un refuge pendant la nuit. Ainsi donc, ce couple magnifique fut laissé entièrement libre de ses mouvements, et les colons évitèrent même de l'effrayer en s'approchant. Plusieurs fois, cependant, les onagas parurent éprouver le besoin de quitter ce plateau, trop restreint pour eux, habitués aux larges espaces et aux forêts profondes. On les voyait alors suivre la ceinture d'eau, qui leur opposait une infranchissable barrière, jeter quelques braiements aigus, puis galoper à travers les herbes, et le calme revenu, il restait des heures entières à considérer ces grands bois qui leur étaient fermés sans retour. Cependant, des harnais et des traits en fibres végétales avaient été confectionnés, et quelques jours après la capture des onagas, non seulement le chariot était prêt à être attelé, mais une route droite, ou plutôt une coupée, avait été faite à travers la forêt du Far West, depuis le coude de la Mercy jusqu'au port Ballon. On pouvait donc y conduire le chariot, et ce fut vers la fin de décembre qu'on essaya pour la première fois les onagas. Pencroff avait déjà assez amadoué ses animaux pour qu'ils vinssent lui manger dans la main, et il se laissait approcher sans difficulté, mais une fois attelés, ils se cabrèrent, et on eut grand-peine à les contenir. Cependant, ils ne devaient pas tarder à se plier à ce nouveau service, car l'onaga, moins rebelle que le zèbre, s'attelle fréquemment dans les parties montagneuses de l'Afrique australe, et on a même pu l'acclimater en Europe sous des zones relativement froides. Ce jour-là,
toute la colonie, sauf Pencroff qui marchait à la tête de ses bêtes, monta dans le chariot et prit la route de Port-Ballon. Si l'on fut cahoté sur cette route à peine ébauchée, cela va sans dire. Mais le véhicule arriva sans encombre, et le jour même, on put y charger l'enveloppe et les divers agrès de l'aérostat. À 8 heures du soir, le chariot, après avoir repassé le pont de la Mercy, redescendait la rive gauche de la rivière et s'arrêtait sur la grève. Les onagas étaient dételés, puis ramenés à leur écurie, et Pencroff, avant de s'endormir, poussait un soupir de satisfaction qui fit bruyamment retentir les échos de Granite House. Chapitre 8. La première semaine de janvier fut consacrée à la confection du linge nécessaire à la colonie. Les aiguilles trouvées dans la caisse fonctionnèrent entre des doigts vigoureux, sinon délicats, et on peut affirmer que ce qui fut cousu le fut solidement. Le fil ne manqua pas, grâce à l'idée qu'eut Cyrus Smith de réemployer celui qui avait déjà servi à la couture des bandes de l'aérostat. Ces longues bandes furent décousues avec une patience admirable par Gédéon Spilett et Harbert, car Pencroff avait dû renoncer à ce travail qui l'agaçait outre mesure. Mais quand il se fut agi de coudre, il n'eut pas son égal. Personne n'ignore en effet que les marins ont une aptitude remarquable pour le métier de couturière. Les toiles qui composaient l'enveloppe de l'aérostat furent ensuite dégraissées au moyen de soude et de potasse obtenues par incinération de plantes, de telle sorte que le coton, débarrassé du vernis, reprit sa souplesse et son élasticité naturelle. Puis, soumis à l'action décolorante de l'atmosphère, il acquit une blancheur parfaite. Quelques douzaines de chemises et de chaussettes, celles-ci non tricotées bien entendu, mais faites de toile cousue, furent ainsi préparées. Quelle jouissance ce fut, pour les colons, de revertir enfin du linge blanc, linge très rude sans doute, mais il n'en était pas à s'inquiéter de si peu, et de se coucher entre des draps qui firent des couchettes de Granite House, des lits tout à fait sérieux. Ce fut aussi, vers cette époque, que l'on confectionna des chaussures en cuir de phoque, qui vinrent remplacer à propos les souliers et les bottes apportés d'Amérique. On peut affirmer que ces nouvelles chaussures furent larges et longues et ne gênèrent jamais le pied des marcheurs. Avec le début de l'année 1866, les chaleurs furent persistantes, mais la chasse sous bois ne chôma point. Agouti, pécari, cabiais, kangourou, gibier de poils et de plumes fourmillaient véritablement, et Gédéon Spilett et Harbert étaient trop bons tireurs pour perdre désormais un seul coup de fusil. Cyrus Smith leur recommandait toujours de ménager les munitions, et il prit des mesures pour remplacer la poudre et le plomb qui avaient été trouvés dans la caisse et qu'il voulait réserver pour l'avenir. Savait-il, en effet, où le hasard pourrait jeter un jour lui et les siens, dans le cas où ils quitteraient leur domaine? Il fallait donc parer à toutes les nécessités de l'inconnu et ménager les munitions en leur substituant d'autres substances aisément renouvelables. Pour remplacer le plomb, dont Cyrus Smith n'avait rencontré aucune trace dans l'île, il employa sans trop de désavantage de la grenaille de fer qui était facile à fabriquer. Ces grains n'ayant pas la pesanteur des grains de plomb, il dut les faire plus gros, et chaque charge en contint moins, mais l'adresse des chasseurs suppléa à ce défaut. Quant à la poudre, Cyrus Smith aurait pu en faire, car il avait à sa disposition le salpêtre, le soufre et le charbon, mais cette préparation demande des soins extrêmes, et sans un outillage spécial, il est difficile de la produire en bonne qualité. Cyrus Smith
préféra donc fabriquer du pyroxyle, c'est-à-dire du fulmicoton, substance dans laquelle le coton n'est pas indispensable, car il n'y entre que comme cellulose. Or, la cellulose n'est autre chose que le tissu élémentaire des végétaux, et elle se trouve à peu près à l'état de pureté, non seulement dans le coton, mais dans les fibres textiles du chanvre et du lin, dans le papier, le vieux linge, la moelle de sureau, etc. Or, précisément, les sureaux abondaient dans l'île, vers l'embouchure du Creek Rouge, et les colons employaient déjà en guise de café les baies de ces arbrisseaux, qui appartiennent à la famille des caprifiolacées. Ainsi donc, cette moelle de sureau, c'est-à-dire la cellulose, il suffisait de la récolter, et quant à l'autre substance nécessaire à la fabrication du pyroxyle, ce n'était que de l'acide azotique fumant. Or, Cyrus Smith, ayant de l'acide sulfurique à sa disposition, avait déjà pu facilement produire de l'acide azotique en attaquant le salpêtre que lui fournissait la nature. Il résolut donc de fabriquer et d'employer du pyroxyle, tout en lui reconnaissant d'assez graves inconvénients, c'est-à-dire une grande inégalité d'effet, une excessive inflammabilité, puisqu'il s'enflamme à 170 degrés au lieu de 240, et enfin une déflagration trop instantanée qui peut dégrader les armes à feu. En revanche, les avantages du pyroxyle consistaient en ceci, qu'il ne s'altérait pas par l'humidité, qu'il n'encrassait pas le canon des fusils, et que sa force propulsive était quadruple de celle de la poudre ordinaire. Pour faire le pyroxyle, il suffit de plonger pendant un quart d'heure de la cellulose dans de l'acide azotique fumant, puis de laver à grande eau et de faire sécher. On le voit, rien n'est plus simple. Cyrus Smith n'avait à sa disposition que de l'acide azotique ordinaire, et non de l'acide azotique fumant ou monohydraté, c'est-à-dire de l'acide qui émet des vapeurs blanchâtres au contact de l'air humide. Mais, en substituant à ce dernier de l'acide azotique ordinaire, mélangé dans la proportion de 3 volumes à 5 volumes d'acide sulfurique concentré, l'ingénieur devait obtenir le même résultat, et il l'obtint. Les chasseurs de l'île eurent donc bientôt à leur disposition une substance parfaitement préparée et qui, employée avec discrétion, donna d'excellents résultats. Vers cette époque, les colons défrichèrent 3 acres du plateau de Grande Vue. L'acre vaut 0,4 hectare, et le reste fut conservé à l'état de prairie pour l'entretien des onagas. Plusieurs excursions furent faites dans les forêts du Jacamar et du Far West, et l'on rapporta une véritable récolte de végétaux sauvages, épinards, cressons, raiforts, raves, qu'une culture intelligente devait bientôt modifier, et qui allait tempérer le régime d'alimentation azotée auquel avaient été jusque-là soumis les colons de l'île Lincoln. On véhicula également de notables quantités de bois et de charbon. Chaque excursion était, en même temps, un moyen d'améliorer les routes, dont la chaussée se tassait peu à peu sous les roues du chariot. La Garenne fournissait toujours son contingent de lapins aux offices de Granite House. Comme elle était située un peu au dehors du point où s'annonçait le creek Glycérine, ses hôtes ne pouvaient pénétrer sur le plateau réservé, ni ravager, par conséquent, les plantations nouvellement faites. Quant à l'huîtrière, disposée au milieu des rocs de la plage, et dont les produits étaient fréquemment renouvelés, elle donnait quotidiennement d'excellents mollusques. En outre, la pêche, soit dans les eaux du lac, soit dans le courant de la Mercy, ne tarda pas à être fructueuse, car Pencroff avait installé des lignes de fond armées d'hameçons de fer, auxquels se prenaient fréquemment de belles truites et certains poissons extrêmement savoureux, dont les flancs argentés étaient semés de petites taches jaunâtres. Aussi, Maître Nab, chargé des soins culinaires, pouvait-il varier agréablement le menu de chaque repas. Seul, le pain manquait encore à la table des colons, et on l'a dit, c'était une privation à laquelle ils étaient vraiment sensibles. On fit aussi, vers cette époque, la chasse aux tortues marines, qui fréquentaient les plages du Cap Mandibule. En cet endroit, la grève était hérissée de petites boursouflures, renfermant des œufs parfaitement sphériques, à coque plate et dure, et dont l'albumine a la propriété de ne point se coaguler comme celle des œufs d'oiseaux. C'était le soleil qui se chargeait de les faire éclore, et leur nombre était naturellement très considérable, puisque chaque tortue peut en pondre annuellement jusqu'à 250. « Un véritable champ d'œufs !» fit observer Gédéon Spilett, « et il n'y a qu'à les récolter. » Mais on ne se contenta pas des produits, on fit aussi la chasse aux producteurs, chasse qui permit de rapporter à Granite House une douzaine de ces chéloniens, véritablement très estimables au point de vue alimentaire. Le bouillon de tortue, relevé d'herbes aromatiques et agrémenté de quelques crucifères, attira souvent des éloges mérités à Maître Nab, son préparateur. Il faut encore citer ici une circonstance heureuse qui permit de faire de nouvelles réserves pour l'hiver. Des saumons vinrent par bandes s'aventurer dans la Mercy et en remontèrent le cours pendant plusieurs milles. C'était l'époque à laquelle les femelles, allant rechercher des endroits convenables pour frayer, précédaient les mâles et faisaient grand bruit à travers les eaux douces. Un millier de ces poissons, qui mesuraient jusqu'à 2,5 pieds de longueur, s'engouffra ainsi dans la rivière, où il suffit d'établir quelques barrages pour en retenir une grande quantité. On en prit ainsi plusieurs centaines, qui furent salées et mises en réserve pour le temps où l'hiver, glaçant les cours d'eau, rendrait toute pêche impraticable. Ce fut à cette époque que le très intelligent Jup fut élevé aux fonctions de valet de chambre. Il avait été vêtu d'une jaquette, d'une culotte courte en toile blanche, et d'un tablier dont les poches faisaient son bonheur, car il y fourrait ses mains et ne souffrait pas qu'on y vînt fouiller. L'adroit Oran avait été merveilleusement stylé par Nab, et on eût dit que le nègre et le singe se comprenaient quand ils causaient ensemble. Jup avait, d'ailleurs, pour Nab une sympathie réelle, et Nab la lui rendait. À moins qu'on eût besoin de ses services, soit pour charrier du bois, soit pour grimper à la cime de quelque arbre, Jup passait la plus grande partie de son temps à la cuisine, et cherchait à imiter Nab en tout ce qu'il lui voyait faire. Le maître montrait, d'ailleurs, une patience et même un zèle extrême à instruire son élève, et l'élève déployait une intelligence remarquable à profiter des leçons que lui donnait son maître. Qu'on juge donc de la satisfaction que procura un jour maître Jup aux convives de Granite House, quand, la serviette sur le bras, il vint, sans qu'ils en eussent été prévenus, les servir à table. Adroit, attentif, il s'acquitta de son service avec une adresse parfaite, changeant les assiettes, apportant les plats, versant à boire, le tout avec un sérieux qui amusa au dernier point les colons et dont s'enthousiasma Pencroff. « Jup, du potage ! Jup, un peu d'agouti ! Jup, une assiette ! Jup, brave Jup, honnête Jup !» On n'entendait que cela, et Jup, sans se déconcerter jamais, répondait à tout, veillait à tout, et il hocha sa tête intelligente, quand Pencroff, refaisant sa plaisanterie du premier jour, lui dit « Décidément, Jup, il faudra vous doubler vos gages. » Inutile de dire que Laurent était alors absolument acclimaté à Granite House, et qu'il accompagnait souvent ses maîtres dans la forêt, sans jamais manifester aucune envie de s'enfuir. Il fallait le voir, alors, marcher de la façon la plus amusante, avec une canne que Pencroff lui avait faite et qu'il portait sur son épaule comme un fusil. Si l'on avait besoin de cueillir quelques fruits à la cime d'un arbre, qu'il était vite en haut. Si la roue du chariot venait à s'embourber, avec quelle vigueur Jup, d'un seul coup d'épaule, la remettait en bon chemin.
« Quel gaillard !» s'écriait souvent Pencroff. « S'il était aussi méchant qu'il est bon, il n'y aurait pas moyen d'en venir à bout. »
Ce fut vers la fin de janvier que les colons entreprirent de grands travaux dans la partie centrale de l'île. Il avait été décidé que, vers les sources du Creek Rouge, au pied du mont Franklin, serait fondé un corral destiné à contenir les ruminants, dont la présence eût été gênante à Granite House, et plus particulièrement ses mouflons, qui devaient fournir la laine destinée à la confection des vêtements d'hiver. Chaque matin, la colonie, quelquefois tout entière, le plus souvent représentée seulement par Cyrus Smith, Harbert et Pencroff, se rendait aux sources du creek, et les onaggas aidant, ce n'était plus qu'une promenade de 5 milles, sous un dôme de verdure, par cette route nouvellement tracée qui prit le nom de route du corral. Là, un vaste emplacement avait été choisi, au revers même de la croupe méridionale de la montagne. C'était une prairie, plantée de bouquets et d'arbres, située au pied même d'un contrefort qui la fermait sur un côté. Un petit rio, né sur ses pentes, après l'avoir arrosé diagonalement, allait se perdre dans le creek rouge. L'herbe était fraîche, et les arbres qui croissaient çà et là permettaient à l'air de circuler librement à sa surface. Il suffisait donc d'entourer la dite prairie d'une palissade disposée circulairement, qui viendrait s'appuyer à chaque extrémité sur le contrefort, et assez élevée pour que des animaux, même les plus agiles, ne pussent la franchir. Cette enceinte pourrait contenir, en même temps qu'une centaine d'animaux à cornes, mouflons ou chèvres sauvages, les petits qui viendraient à naître par la suite. Le périmètre du corral fut donc tracé par l'ingénieur, et on dut procéder à l'abattage des arbres nécessaires à la construction de la palissade. Mais comme le percement de la route avait déjà nécessité le sacrifice d'un certain nombre de troncs, on les charria, et ils fournirent une centaine de pieux qui furent solidement implantés dans le sol. À la partie antérieure de la palissade, une entrée assez large fut ménagée et fermée par une porte à deux battants, faite de forts madriers, que devaient consolider des barres extérieures. La construction de ce corral ne demanda pas moins de 3 semaines, car, outre les travaux de palissade, Cyrus Smith éleva de vastes hangars en planches sous lesquels les ruminants pourraient se réfugier. D'ailleurs, il avait été nécessaire d'établir ces constructions avec une extrême solidité, car les mouflons sont de robustes animaux et leur première violence était à craindre. Les pieux, pointus à leur extrémité supérieure, qui fut durcie au feu, avaient été rendus solidaires au moyen de traverses boulonnées, et de distance en distance, des étais assuraient la solidité de l'ensemble. Le corral terminé, il s'agissait d'opérer une grande battue au pied du mont Franklin, au milieu des pâturages fréquentés par les ruminants. Cette opération se fit le 7 février par une belle journée d'été, et tout le monde y prit part. Les 2 onaggas, assez bien dressés déjà et montés par Gédéon Spilett et Harbert, rendirent de grands services dans cette circonstance. La manœuvre consistait uniquement à rabattre les mouflons et les chèvres, en resserrant peu à peu le cercle de battue autour d'eux. Aussi, Cyrus Smith, Pencroff, Nab, Jup se postèrent-ils dans divers points du bois, tandis que les 2 cavaliers et Top galopaient dans un rayon d'un demi-mille autour du corral. Les mouflons étaient nombreux dans cette portion de l'île. Ces beaux animaux, grands comme des daims, les cornes plus fortes que celles du bélier, la toison grisâtre et mêlée de longs poils, ressemblaient à des argalies. Elle fut fatigante, cette journée de chasse. Que d'allées et venues, que de courses et contre-courses, que de cris proférés. Sur une centaine de mouflons qui furent rabattus, plus des deux tiers s'échappèrent aux rabatteurs. Mais en fin de compte, une trentaine de ces ruminants et une dizaine de chèvres sauvages, peu à peu repoussées vers le corral, dont la porte était ouverte, semblaient leur offrir une issue, s'y jetèrent et purent être emprisonnés. En somme, le résultat fut satisfaisant, et les colons n'eurent pas à se plaindre. La plupart de ces mouflons étaient des femelles, dont quelques-unes ne devaient pas tarder à mettre bas. Il était donc certain que le troupeau prospérerait, et que non seulement la laine, mais aussi les peaux, abonderaient dans un temps peu éloigné. Ce soir-là, les chasseurs revinrent exténués à Granite House. Cependant, le lendemain, ils n'en retournèrent pas moins visiter le corral. Les prisonniers avaient bien essayé de renverser la palissade, mais ils n'y avaient point réussi, et ils ne tardèrent pas à se tenir plus tranquilles. Pendant ce mois de février, il ne se passa aucun événement de quelque importance. Les travaux quotidiens se poursuivirent avec méthode, et, en même temps qu'on améliorait les routes du corral et du port Ballon, une troisième fut commencée, qui, partant de l'enclos, se dirigea vers la côte occidentale. La portion encore inconnue de l'île Lincoln était toujours celle de ces grands bois qui couvraient la presqu'île Serpentine, où se réfugiaient les fauves dont Gédéon Spilett comptait bien purger son domaine. Avant que la froide saison reparût, les soins les plus assidus furent donnés également à la culture des plantes sauvages qui avaient été transplantées de la forêt sur le plateau de Grande-Vue. Harbert ne revenait guère d'une excursion sans rapporter quelques végétaux utiles. Un jour, c'était des échantillons de la tribu des Chicoracées, dont la graine même pouvait fournir, par la pression, une huile excellente. Un autre, c'était une oseille commune, dont les propriétés antiscorbutiques n'étaient point à dédaigner. Puis, quelques-uns de ces précieux tubercules, qui ont été cultivés de tout temps dans l'Amérique méridionale, ces pommes de terre, dont on compte aujourd'hui plus de 200 espèces. Le potager, maintenant bien entretenu, bien arrosé, bien défendu contre les oiseaux, était divisé en petits carrés où poussaient laitues, vitelotes, oseilles, raves, raiforts et autres crucifères. La terre sur ce plateau était prodigieusement féconde, et l'on pouvait espérer que les récoltes y seraient abondantes. Les boissons variées ne manquaient pas non plus, et à la condition de ne pas exiger de vin, les plus difficiles ne devaient pas se plaindre. Au thé d'Oswego fourni par les monardes d'Idyme, et à la liqueur fermentée extraite des racines du dragonnier, Cyrus Smith avait ajouté une véritable bière. Il la fabriqua avec les jeunes pousses de l'Abies nigra, qui, après avoir bouilli et fermenté, donnèrent cette boisson agréable et particulièrement hygiénique que les anglo-américains nomment « spring beer », c'est-à-dire « bière de sapin ». Vers la fin de l'été, la basse-cour possédait un beau couple d'outardes qui appartenaient à l'espèce « oubara », caractérisée par une sorte de mantelet de plumes, une douzaine de souchets, dont la mandibule supérieure était prolongée de chaque côté par un appendice membraneux, et de magnifiques coques, noires de crête, de caroncules et d'épiderme, semblables aux coques de Mozambique qui se pavanaient sur la rive du lac. Ainsi donc, tout réussissait, grâce à l'activité de ces hommes courageux et intelligents. La Providence faisait beaucoup pour eux, sans doute, mais, fidèles aux grands préceptes, ils cédaient d'abord, et le ciel leur venait ensuite en aide. Après ces chaudes journées d'été, le soir, quand les travaux étaient terminés, au moment où se levait la brise de mer, ils aimaient à s'asseoir sur la lisière du plateau de Grande-Vue, sous une sorte de véranda couverte de plantes grimpantes que Nab avait élevées de ses propres mains. Là, ils causaient, ils s'instruisaient les uns les autres, ils faisaient des plans, et la grosse bonne humeur du marin réjouissait incessamment ce petit monde, dans lequel la plus parfaite harmonie n'avait jamais cessé de régner. On parlait aussi du pays, de la chère et grande Amérique. Où en était cette guerre de sécession? Elle n'avait évidemment pu se prolonger. Richmond était promptement tombé, sans doute, aux mains du général Grant. La prise de la capitale des Confédérés avait dû être le dernier acte de cette funeste lutte. Maintenant, le Nord avait triomphé pour la bonne cause. Ah, qu'un journal eût été le bienvenu pour les exilés de l'île Lincoln. Voilà 11 mois que toute communication entre eux et le reste des humains avait été interrompue, et, avant peu, le 24 mars arrivait l'anniversaire de ce jour où le ballon les jeta sur cette côte inconnue. Ils n'étaient alors que des naufragés, ne sachant pas même s'ils pourraient disputer aux éléments leur misérable vie. Et maintenant, grâce au savoir de leur chef, grâce à leur propre intelligence, c'étaient de véritables colons munis d'armes, d'outils, d'instruments, qui avaient su transformer à leur profit les animaux, les plantes et les minéraux de l'île, c'est-à-dire les trois règnes de la nature. Oui, ils causaient souvent de toutes ces choses, et formaient encore bien des projets d'avenir. Quant à Cyrus Smith, la plupart du temps silencieux, il écoutait ses compagnons plus souvent qu'il ne parlait. Parfois, il souriait à quelques réflexions d'Harbert, à quelques boutades de Pencroff, mais toujours et partout, il songeait à ces faits inexplicables, à cette étrange énigme dont le secret lui échappait encore.
Chapitre 9. Le temps changea pendant la première semaine de mars. Il y avait eu pleine lune au commencement du mois, et les chaleurs étaient toujours excessives. On sentait que l'atmosphère était imprégnée d'électricité, et une période plus ou moins longue de temps orageux était réellement à craindre. En effet, le 2, le tonnerre gronda avec une extrême violence. Le vent soufflait de l'est, et la grêle attaqua directement la façade de Granite House, en crépitant comme une volée de mitraille. Il fallut fermer hermétiquement la porte et les volets des fenêtres, sans quoi tout eût été inondé à l'intérieur des chambres. En voyant tomber ces grêlons, dont quelques-uns avaient la grosseur d'un œuf de pigeon, Pencroff n'eut qu'une idée, c'est que son champ de blé courait les dangers les plus sérieux. Et aussitôt, il courut à son champ, où les épis commençaient déjà à lever leurs petites têtes vertes, et, au moyen d'une grosse toile, il parvint à protéger sa récolte. Il fut lapidé à sa place, mais il ne s'en plaignit pas. Ce mauvais temps dura 8 jours, pendant lesquels le tonnerre ne cessa de rouler dans les profondeurs du ciel. Entre 2 orages, on l'entendait encore gronder sourdement, hors des limites de l'horizon, puis il reprenait avec une nouvelle fureur. Le ciel était zébré d'éclairs, et la foudre frappa plusieurs arbres de l'île, entre autres un énorme pin qui s'élevait près du lac, à la lisière de la forêt. 2 ou 3 fois aussi, la grève fut atteinte par le fluide électrique, qui fondit le sable et le vitrifia. En retrouvant ces fulgurites, l'ingénieur fut amené à croire qu'il serait possible de garnir les fenêtres de vitres épaisses et solides, qui pussent défier le vent, la pluie et la grêle. Les colons, n'ayant pas de travaux pressés à faire au dehors, profitèrent du mauvais temps pour travailler à l'intérieur de Granite House, dont l'aménagement se perfectionnait et se complétait de jour en jour. L'ingénieur installa un tour qui lui permit de tourner quelques ustensiles de toilette ou de cuisine, et particulièrement des boutons dont le défaut se faisait vivement sentir. Un râtelier avait été installé pour les armes, qui étaient entretenues avec un soin extrême, et ni les étagères ni les armoires ne laissaient à désirer. On sciait, on rabotait, on limait, on tournait, et pendant toute cette période de mauvais temps, on entendit que le grincement des outils, ou les ronflements du tour, qui répondaient au grondement du tonnerre. Maître Jup n'avait point été oublié, et il occupait une chambre à part, près du magasin général, sorte de cabine avec cadre toujours rempli de bonnes litières, qui lui convenait parfaitement. Avec ce brave Jup, jamais de récrimination, répétait souvent Pencroff. Jamais de réponse inconvenante. Quel domestique, Nab, quel domestique! Mon élève, répondait Nab, et bientôt mon égal. Ton supérieur, ripostait en riant le marin, car enfin toi, Nab, tu parles, et lui ne parle pas. Il va sans dire que Jup était maintenant au courant du service. Il battait les habits, il tournait la broche, il balayait les chambres, il servait à table, il rangeait le bois et, détail qui enchantait Pencroff, il ne se couchait jamais sans être venu border le digne marin dans son lit. Quant à la santé des membres de la colonie, bipèdes ou bimanes, quadrumanes ou quadrupèdes, elle ne laissait rien à désirer. Avec cette vie au grand air sur ce sol salubre, sous cette zone tempérée, travaillant de la tête et de la main, ils ne pouvaient croire que la maladie dût jamais les atteindre. Tous se portaient merveilleusement bien, en effet. Harbert avait déjà grandi de 2 pouces depuis 1 an, sa figure se formait et devenait plus mâle, et il promettait d'être un homme aussi accompli, au physique qu'au moral. D'ailleurs, il profitait pour s'instruire de tous les loisirs que lui laissaient les occupations manuelles, il lisait les livres trouvés dans la caisse, et, après les leçons pratiques qui ressortaient de la nécessité même de sa position, il trouvait dans l'ingénieur pour les sciences, dans le reporter pour les langues, des maîtres qui se plaisaient à compléter son éducation. L'idée fixe de l'ingénieur était de transmettre au jeune garçon tout ce qu'il savait, de l'instruire par l'exemple autant que par la parole, et Harbert profitait largement des leçons de son professeur. « Si je meurs, pensait Cyrus Smith, c'est lui qui me remplacera. » La tempête prit fin vers le 9 mars, mais le ciel demeura couvert de nuages pendant tout ce dernier mois de l'été. L'atmosphère, violemment troublée par ces commotions électriques, ne put recouvrer sa pureté antérieure, et il y eut presque invariablement des pluies et des brouillards, sauf 3 ou 4 belles journées qui favorisèrent des excursions de toutes sortes. Vers cette époque, l'onaga femelle mit bas un petit qui appartenait au même sexe que sa mère et qui vint à merveille. Au corral, il y eut dans les mêmes circonstances accroissement du troupeau de mouflons, et plusieurs agneaux bêlaient déjà sous les hangars, à la grande joie de Nab et d'Harbert, qui avaient chacun leur favori parmi les nouveaux-nés. On tenta aussi un essai de domestication pour les pécaris, essai qui réussit pleinement. Une étable fut construite près de la basse-cour, et compta bientôt plusieurs petits en train de se civiliser, c'est-à-dire de s'engraisser par les soins de Nab. Maître Jup, chargé de leur apporter la nourriture quotidienne, eau de vaisselle, rognures de cuisine, etc., s'acquittait consciencieusement de sa tâche. Il lui arrivait bien parfois de s'égayer aux dépens de ses petits pensionnaires et de leur tirer la queue, mais c'était malice et non méchanceté, car ses petites queues tortillées l'amusaient comme un jouet, et son instinct était celui d'un enfant. Un jour de ce mois de mars, Pencroff, causant avec l'ingénieur, rappela à Cyrus Smith une promesse que celui-ci n'avait pas encore eu le temps de remplir. « Vous aviez parlé d'un appareil qui supprimerait les longues échelles de Granite House, monsieur Cyrus, lui dit-il. Est-ce que vous ne l'établirez pas quelque jour ?»« Vous voulez parler d'une sorte d'ascenseur ?» répondit Cyrus Smith. « Appelons cela un ascenseur, si vous voulez, » répondit le marin. « Le nom n'y fait rien. pourvu que cela nous monte sans fatigue jusqu'à notre demeure. »
Rien ne sera plus facile, Pencroff, mais est-ce bien utile ?
Certes, monsieur Cyrus. Après nous être donné le nécessaire, pensons un peu au confortable.
Pour les personnes, ce sera du luxe si vous voulez, mais pour les choses, c'est indispensable.
Ce n'est pas déjà si commode de grimper à une longue échelle quand on est lourdement chargé.
Eh bien, Pencroff, nous allons essayer de vous contenter, répondit Cyrus Smith.
Mais vous n'avez pas de machine à votre disposition.
Nous en ferons.
Une machine à vapeur?
Non, une machine à eau.
Et, en effet, pour manœuvrer son appareil, une force naturelle était à la disposition de l'ingénieur et que celui-ci pouvait utiliser sans grande difficulté. Pour cela, il suffisait d'augmenter le débit de la petite dérivation faite au lac qui fournissait l'eau à l'intérieur de Granite House. L'orifice ménagé entre les pierres et les herbes, à l'extrémité supérieure du déversoir, fut donc accru, ce qui produisit au fond du couloir une forte chute, dont le trop-plein se déversa par le puits intérieur. Au-dessous de cette chute, l'ingénieur installa un cylindre à palette qui se raccordait à l'extérieur avec une roue enroulée d'un fort câble supportant une banne. De cette façon, au moyen d'une longue corde qui tombait jusqu'au sol et qui permettait d'embrayer ou de désembrayer le moteur hydraulique, on pouvait s'élever dans la banne jusqu'à la porte de Granite House. Ce fut le 17 mars que l'ascenseur fonctionna pour la première fois, et à la satisfaction commune. Dorénavant, tous les fardeaux, bois, charbon, provisions et colons eux-mêmes, furent hissés par ce système si simple qui remplaça l'échelle primitive que personne ne songea à regretter. Top se montra particulièrement enchanté de cette amélioration, car il n'avait pas et ne pouvait avoir l'adresse de Maître Jup pour gravir les échelons. Et bien des fois c'était sur le dos de Nab, ou même sur celui de Laurent, qu'il avait dû faire l'ascension de Granite House. Vers cette époque aussi, Cyrus Smith essaya de fabriquer du verre, et il dut d'abord approprier l'ancien tour à poterie à cette nouvelle destination. Cela présentait d'assez grandes difficultés. Mais après plusieurs essais infructueux, il finit par réussir à monter un atelier de verrerie que Gédéon Spilett et Harbert, les aides naturelles de l'ingénieur, ne quittèrent pas pendant quelques jours. Quant aux substances qui entrent dans la composition du verre, ce sont uniquement du sable, de la craie et de la soude, carbonate ou sulfate. Or, le rivage fournissait le sable, la chaux fournissait la craie, les plantes marines fournissaient la soude, les pyrites fournissaient l'acide sulfurique, et le sol fournissait la houille pour chauffer le four à la température voulue. Cyrus Smith se trouvait donc dans les conditions nécessaires pour opérer. L'outil dont la fabrication offrit le plus de difficultés fut la canne du verrier, tube de fer long de 5 à 6 pieds, qui sert à recueillir par un de ses bouts la matière que l'on maintient à l'état de fusion. Mais au moyen d'une bande de fer longue et mince, qui fut roulée comme un canon de fusil, Pencroff réussit à fabriquer cette canne, et elle fut bientôt en état de fonctionner. Le 28 mars, le four fut chauffé vivement. 100 parties de sable, 35 de craie, 40 de sulfate de soude, mêlées à 2 ou 3 parties de charbon en poudre, composèrent la substance qui fut déposée dans les creusets en terre réfractaire. Lorsque la température élevée du four l'eut réduite à l'état liquide, ou plutôt à l'état pâteux, Cyrus Smith cueillit avec la canne une certaine quantité de cette pâte. Il la tourna et la retourna sur une plaque de métal préalablement disposée, de manière à lui donner la forme convenable pour le soufflage. Puis il passa la canne à Harbert en lui disant de souffler par l'autre extrémité.
« Comme pour faire des bulles de savon ?» demanda le jeune garçon.
« Exactement, » répondit l'ingénieur.
Et Harbert, gonflant ses joues, souffla tant et si bien dans la canne, en ayant soin de la tourner sans cesse, que son souffle dilata la masse vitreuse. D'autres quantités de substances en fusion furent ajoutées à la première, et il en résulta bientôt une bulle qui mesurait un pied de diamètre. Alors, Cyrus Smith reprit la canne des mains d'Harbert, et, lui imprimant un mouvement de pendule, il finit par allonger la bulle malléable, de manière à lui donner une forme cylindro-conique. L'opération du soufflage avait donc donné un cylindre de verre, terminé par deux calottes hémisphériques, qui furent facilement détachées au moyen d'un fer tranchant mouillé dans l'eau froide. Puis, par le même procédé, ce cylindre fut fendu dans sa longueur, et, après avoir été rendu malléable par une seconde chauffe, il fut étendu sur une plaque et plané au moyen d'un rouleau de bois. La première vitre était donc fabriquée, et il suffisait de recommencer 50 fois l'opération pour avoir 50 vitres. Aussi, les fenêtres de Granite House furent-elles bientôt garnies de plaques diaphanes, pas très blanches peut-être, mais suffisamment transparentes. Quant à la gobeleterie, verres et bouteilles, ce ne fut qu'un jeu. On les acceptait d'ailleurs tels qu'ils venaient au bout de la canne. Pencroff avait demandé la faveur de souffler à son tour, et c'était un plaisir pour lui, mais il soufflait si fort que ses produits affectaient les formes les plus réjouissantes qui faisaient son admiration. Pendant une des excursions qui furent faites à cette époque, un nouvel arbre fut découvert dont les produits vinrent encore accroître les ressources alimentaires de la colonie. Cyrus Smith et Harbert, tout en chassant, s'étaient aventurés un jour dans la forêt du Far West, sur la gauche de la Mercy, et, comme toujours, le jeune garçon faisait 1000 questions à l'ingénieur, auxquelles celui-ci répondait de grand cœur. Mais il en est de la chasse comme de toute occupation ici-bas, et quand on n'y met pas le zèle voulu, il y a bien des raisons pour ne point réussir. Or, comme Cyrus Smith n'était pas chasseur, et que d'un autre côté Harbert parlait chimie et physique, ce jour-là, bien des kangourous, des cabiais et des agoutis passèrent à bonne portée, qui échappèrent pourtant au fusil du jeune garçon. Il s'ensuivit donc que, la journée étant déjà avancée, les deux chasseurs risquaient fort d'avoir fait une excursion inutile. Quand Harbert, s'arrêtant et poussant un cri de joie, s'écria « Ah, monsieur Cyrus, voyez-vous cet arbre ?» et il montrait un arbuste plutôt qu'un arbre, car il ne se composait que d'une tige simple, revêtue d'une écorce squameuse, qui portait des feuilles zébrées de petites veines parallèles. « Et quel est cet arbre qui ressemble à un petit palmier ?» demanda Cyrus Smith.
« C'est un Cycas revoluta, dont j'ai le portrait dans notre dictionnaire d'histoire naturelle. »«
Mais je ne vois point de fruits à cet arbre. »«
Non, monsieur Cyrus, » répondit Harbert, « mais son tronc contient une farine que la nature nous fournit toute moulue. »«
C'est donc l'arbre à pain ?»«
Oui, l'arbre à pain. »«
Eh bien, mon enfant, » répondit l'ingénieur, « voilà une précieuse découverte, en attendant notre récolte de froment. À l'ouvrage, et fasse le ciel que tu ne te sois pas trompé. »
Harbert ne s'était pas trompé. Il brisa la tige d'un cycas qui était composé d'un tissu glandulaire et renfermait une certaine quantité de moelle farineuse, traversée de faisceaux ligneux, séparés par des anneaux de même substance, disposés concentriquement. À cette fécule se mêlait un suc mucilagineux, d'une saveur désagréable, mais qu'il serait facile de chasser par la pression. Cette substance cellulaire formait une véritable farine de qualité supérieure, extrêmement nourrissante, et dont,
Autrefois, les lois japonaises défendaient l'exportation. Cyrus Smith et Harbert, après avoir bien étudié la portion du Far West où poussaient ces cicas, prirent des points de repère et revinrent à Granite House, où ils firent connaître leur découverte. Le lendemain, les colons allaient à la récolte, et Pencroff, de plus en plus enthousiaste de son île, disait à l'ingénieur « Monsieur Cyrus, croyez-vous qu'il y ait des îles à naufrager ?»« Qu'entendez-vous par là, Pencroff ?»« Eh bien, j'entends des îles créées spécialement pour qu'on y fasse convenablement naufrage, et sur lesquelles de pauvres diables puissent toujours se tirer d'affaire. »
« Cela est possible, » répondit en souriant l'ingénieur.
« Cela est certain, monsieur, » répondit Pencroff, « et il est non moins certain que l'île Lincoln en est une. » On revint à Granite House avec une ample moisson de tiges de cycas. L'ingénieur établit une presse afin d'extraire le suc mucilagineux mêlé à la fécule, et il obtint une notable quantité de farine qui, sous la main de Nab, se transforma en gâteau et en pudding. Ce n'était pas encore le vrai pain de froment, mais on y touchait presque. À cette époque aussi, l'onaga, les chèvres et les brebis du corral fournirent quotidiennement le lait nécessaire à la colonie. Aussi le chariot, ou plutôt une sorte de carriole légère qui l'avait remplacée, faisait-elle de fréquents voyages au corral, et quand c'était à Pencroff de faire sa tournée, il emmenait Jup et le faisait conduire, ce dont Jup, faisant claquer son fouet, s'acquittait avec son intelligence habituelle. Tout prospérait donc aussi bien au corral qu'à Granite House, et véritablement, les colons, si ce n'est qu'ils étaient loin de leur patrie, n'avaient point à se plaindre. Ils étaient si bien faits à cette vie, d'ailleurs, si accoutumés à cette île, qu'ils n'eussent pas quitté sans regret son sol hospitalier. Et cependant, tant l'amour du pays tient au cœur de l'homme, si quelque bâtiment se fût inopinément présenté en vue de l'île, les colons lui auraient fait des signaux, ils l'auraient attiré et il serait parti. En attendant, ils vivaient de cette existence heureuse, et ils avaient la crainte plutôt que le désir qu'un événement quelconque vînt l'interrompre. Mais qui pourrait se flatter d'avoir jamais fixé la fortune et d'être à l'abri de ses revers? Quoi qu'il en soit, cette île Lincoln que les colons habitaient depuis plus d'un an était toujours le sujet de leur conversation, et un jour une observation fut faite qui devait amener plus tard de graves conséquences. C'était le 1er avril, un dimanche, le jour de Pâques, que Cyrus Smith et ses compagnons avaient sanctifié par le repos et la prière. La journée avait été belle, telle que pourrait l'être une journée d'octobre dans l'hémisphère boréal. Tous, vers le soir, après dîner, étaient réunis sous la véranda à la lisière du plateau de grande vue, et ils regardaient monter la nuit sur l'horizon. Quelques tasses de cette infusion de graines de sureau qui remplaçait le café avaient été servies par Nab. On causait de l'île et de sa situation isolée dans le Pacifique, quand Gédéon Spilett fut amené à dire « Mon cher Cyrus, est-ce que, depuis que vous possédez ce sextant trouvé dans la caisse, vous avez relevé de nouveau la position de notre île ?»«
Non, » répondit l'ingénieur.
« Mais il serait peut-être à propos de le faire, avec cet instrument qui est plus parfait que celui que vous avez employé. »«
À quoi bon ?» dit Pencroff. « L'île est bien où elle est. »«
Sans doute, » répondit Gédéon Spilett, « mais il a pu arriver que l'imperfection des appareils ait nuit à la justesse des observations, et puisqu'il est facile d'en vérifier l'exactitude. »«
Vous avez raison, mon cher Spilett, » répondit l'ingénieur, « et j'aurais dû faire cette vérification plus tôt. » Bien que, si j'ai commis quelque erreur, elles ne doivent pas dépasser 5 degrés en longitude ou en latitude.
Eh, qui sait, reprit le reporter, qui sait si nous ne sommes pas beaucoup plus près d'une terre habitée que nous ne le croyons?
Nous le saurons demain, répondit Cyrus Smith, et, sans tant d'occupations qui ne m'ont laissé aucun loisir, nous le saurions déjà.
Bon, dit Pencroff, monsieur Cyrus est un trop bon observateur pour s'être trompé, et si elle n'a pas bougé de place, l'île est bien là où il l'a mise.
Nous verrons. Il s'ensuivit donc que le lendemain, au moyen du sextant, l'ingénieur fit les observations nécessaires pour vérifier les coordonnées qu'il avait déjà obtenues, et voici quel fut le résultat de son opération. Sa première observation lui avait donné pour la situation de l'île Lincoln en longitude ouest de 150 degrés à 155 degrés, en latitude sud de 30 à 35 degrés. La seconde donna exactement en longitude ouest 130 degrés 30, en latitude sud 34 degrés 57. Ainsi donc, malgré l'imperfection de ses appareils, Cyrus Smith avait opéré avec tant d'habileté que son erreur n'avait pas dépassé 5 degrés. Maintenant, dit Gédéon Spilett, puisque, en même temps qu'un sextant, nous possédons un atlas, voyons, mon cher Cyrus, la position que l'île Lincoln occupe exactement dans le Pacifique. Harbert alla chercher l'atlas qui, on le sait, avait été édité en France, et dont par conséquent la nomenclature était en langue française. La carte du Pacifique fut développée, et l'ingénieur, son compas à la main, s'apprêta à en déterminer la situation. Soudain, le compas s'arrêta dans sa main et il dit « Mais il existe déjà une île dans cette partie du Pacifique. » « Une île ?» s'écria Pencroff. « La nôtre sans doute, » répondit Gédéon Spilett. « Non, reprit Cyrus Smith, cette île est située par 153 degrés de longitude et 37 degrés 11 de latitude, c'est-à-dire à 2 degrés et demi plus à l'ouest et 2 degrés plus au sud que l'île Lincoln. » « Et quelle est cette île ?» demanda Harbert. « L'île Tabor. » « Une île importante ?»« Non, un îlot perdu dans le Pacifique et qui n'a jamais été visité peut-être. »
« Eh bien, nous le visiterons, » dit Pencroff.
« Nous ?»«
Oui, monsieur Cyrus, nous construirons une barque pontée, et je me charge de la conduire. »«
À quelle distance sommes-nous de cette île Tabor ?»«
À 150 000 environ, dans le nord-est, » répondit Cyrus Smith.
« 150 000 ?
Et qu'est cela ?» répondit Pencroff.
« En 48 heures, et avec un bon vent, ce sera enlevé. »«
Mais à quoi bon ?» demanda le reporter.
« On ne sait pas, faut voir. »
Et sur cette réponse, il fut décidé qu'une embarcation serait construite, de manière à pouvoir prendre la mer vers le mois d'octobre prochain, au retour de la belle saison.